Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
On n'est pas forcément d'accord.
8h23, leurs voix sont parfaitement claires, leurs pensées aussi. Bonjour Alain Duhamel.
Bonjour.
Bonjour Éric Zemmour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints dans ce studio. Hier soir, les députés britanniques ont donc voté pour un report du Brexit de 3 mois. On le rappelle, la date de sortie était prévue au 29 mars prochain. Comment on sort d'un sketch infernal pour les Britanniques et pour l'Europe?
Alors,
Alain
Duhamel. Je crois que le vote quasi définitif, décisif, ça va être mardi ou mercredi prochain, oui. Puisque Theresa May leur demande de voter pour la 3e fois à son projet de compromis qu'elle a déjà présenté 2 fois, qui a été recalé 2 fois, mais comme maintenant ils ont voté un RAB, ils demandent il y a 2 solutions, hein. Ça peut être de 3 mois ou ça peut être plus de 6 mois, mais ça signifie qu'ils ont le couteau sur la gorge. Ça veut dire que pour les Brexiteurs, ou bien ils acceptent ce qui est en fait un Brexit assez dur, mais moins pur qu'ils ne le voudraient, ou bien ils ont le risque d'avoir à ce moment-là 6 mois au moins de débat, et à ce moment-là, évidemment, c'est l'idée d'un deuxième référendum qui apparaîtra. Donc, le vote de mardi ou mercredi, c'est vraiment le moment où on saura.
Vous comprenez la position britannique, Éric Zemmour? Enfin, vous arrivez à ordonner tout ça?
Il n'y a pas de position britannique, si j'ai bien compris. D'abord, je pense que on ne dira jamais assez que la médiocrité de Theresa May. Après David Cameron, franchement, ils ne sont pas gâtés, les Anglais.
Et après John Major.
Vous l'avez enlevé de la bouche.
Vous êtes d'accord, c'est très bien.
Bon. Deuxièmement, je pense qu'il y a une alliance objective. Je ne dis pas qu'ils sont alliés, hein, je ne fais pas théorie fumeuse, mais je pense qu'il y a une alliance objective entre les Brexitaires les plus durs, qui veulent vraiment une séparation totale, et ceux qui veulent un nouveau référendum. Depuis le début, depuis quelques jours après le référendum, Tony Blair avait dit « il faut faire un nouveau référendum ». Donc il y a une stratégie, d'un côté, les deux stratégies de pourrissement pour des raisons différentes. Et je pense qu'elles se rencontrent et qu'elles prennent en otage tout le système anglais.
Et qu'elles deviennent en quelque sorte une alliance objective, même si elles n'étaient pas initialement faites pour ça.
Exactement.
Oui, mais le résultat de tout ça, c'est que la Grande-Bretagne est divisée comme elle ne l'a jamais été dans son histoire au XXe siècle. Hein. Mais vous savez comment? Je ne sais pas si vous lisez sûrement comme moi la presse britannique tous les jours.
Pas tous les jours, non.
Bon, ben moi je la lis tous les jours.
Ah, bravo.
Et je vois.
Non, mais moi je reconnais.
Je vois ce qu'il raconte.
Ouais.
Hein, c'est la presse britannique, c'est pas moi. Ils ne peuvent pas plus parler du Brexit en famille ou entre amis qu'on ne parlait de l'affaire Dreyfus au début du XXe siècle. Oui. Hein. C'est-à-dire que c'est devenu un clash perpétuel. Et alors, une désorganisation politique hallucinante. Je vous prends le dernier exemple, puisqu'il est dit hier soir. Hier soir, le ministre chargé du Brexit présente une résolution du gouvernement au vote en disant aux parlementaires conservateurs « votez ça », et lui, il vote contre. Non mais c'est
j'ai vu ça. Non mais c'est un peu normal en même temps. Je veux dire, c'est pas un petit choix.
Non,
c'est pas normal. Mais non, c'est un peu tout. Pas la dernière chose.
C'est surréaliste.
Non, je répondais à ce que vous disiez avant, c'est-à-dire qu'il y avait des divisions au sein des familles. Non, ça met pas en péril.
Ce qui mettrait en péril les communes.
Non.
Écoutez,
les communes.
Oui. Même la presse, la quasi-totalité des grands journaux sont conservateurs en Grande-Bretagne. Eh bien, même eux qui donc sont partisans théoriquement de Theresa May, etc., poussent des hurlements quotidiens.
Éric conclut sur cette partie, puis on passe après à la campagne française sur les européennes.
Je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait des déchirements, car, si vous voulez, le Brexit, c'est leur gilet jaune à eux. Je veux dire par là que c'est dans chaque pays occidental, il y a eu la même chose avec Trump, il y a un événement, qu'il soit électoral, chez nous il n'est pas électoral, mais on en a déjà parlé, peu importe, qui révèle la division fondamentale que la mondialisation a faite dans chaque pays occidental, entre eux, pour parler vite, le pays des métropoles vainqueur de la mondialisation et les vaincus. Donc c'est tout à fait normal.
Avec une particularité. Alors c'est vrai.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal que ça soit âpre, vous comprenez? C'est normal que ça soit dur.
Avec une particularité en Grande-Bretagne, qui n'existe pas dans les autres pays, qui est que les jeunes sont massivement pour rester dans l'Europe, et les plus âgés, massivement pour partir.
Non. Les jeunes dans les métropoles.
Non.
Les jeunes dans l'Angleterre périphérique.
Quand on prend la totalité des jeunes.
Non. Il y a comme d'habitude, les jeunes dans les métropoles, il y a les jeunes enfants d'immigrés, et Les jeunes anglais blancs, petits blancs, c'est pas les mêmes. Je suis désolé.
Vous ramène... La majorité
non,
des jeunes,
parce
comme
que ça,
ça
fait. C'est la démocratie,
s'il vous plaît.
Ça,
non, 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 c'est non, la démocratie. Non.
Je vous ramène en France. Je vous ramène en France. Parce qu'on a eu. Alors, il y a une campagne européenne qui démarre péniblement en France. On vient d'avoir cette semaine un sketch à gauche à rebondissement qui a trouvé une illustration tout à l'heure avec Benoît Hamon, qui finit par dire, alors qu'il a été candidat du Parti Socialiste à l'élection présidentielle, ne votez pas pour le Parti Socialiste européen, c'est voter pour Macron. Mais hier soir, la ministre des Affaires européennes nous a fait un numéro en deux temps sur France 2, en annonçant en début d'émission qu'elle n'était pas candidate à la tête de liste de La République En Marche, puis en faisant semblant de changer d'avis pendant l'émission. J'ai envie de... Enfin, voilà, votre avis là-dessus, moi, ça me paraît invraisemblable.
Moi, j'ai trouvé... J'ai bien regardé,
c'est du cinéma.
J'ai bien regardé ça, j'ai trouvé ça lamentable.
On est d'accord.
J'ai trouvé que Nathalie Loiseau, elle est hyper compétente sur ces dossiers.
Oui.
Alors, la différence avec Marine Le Pen, là, elle était vraiment éclatante.
Oui.
Hein, parce que Marine Le Pen se trompait quand même sur le SMIC de presque 1 à 4. Hein, c'est quand même pas banal pour une personnalité politique. Mais Nathalie Loiseau, hyper compétente, très combative, même assez agressive. Alors d'abord, totalement dépourvue de charisme, ce qui en campagne est quand même un peu embêtant. Et puis avec une petite pointe d'arrogance, je ne sais pas si c'était...
Mais c'est le monde macronien, ça, mon cher Alain.
C'est le cliché macronien, absolument.
Ah, ouais.
C'est le cliché macronien, je suis d'accord. C'est pour ça que je pense que ce ne sera pas une candidate idéale, mais si c'est elle qui finalement est désignée.
Mais on lui a fait répéter ce sketch à cette ministre parfaitement compétente, vous avez raison de le rappeler. On a fait répéter ce sketch ridicule qui oblige ce matin... Le Premier ministre a dit finalement qu'il la soutient parce que c'est une bonne idée.
Je sais pas si le sketch était répété ou si c'est elle qui en a eu l'idée toute seule. En tout cas, le fait est que ça faisait totalement artificiel, fabriqué, grotesque et caricatural.
Éric Zemmour,
bon,
moi,
ça vous paraît assez ça nuancé
me Je vais je vais pas en rajouter. C'est inutile. Sauf sur l'arrogance du monde macronien depuis le premier jour, mon cher Alain. Depuis le premier jour, depuis ses élus parlementaires.
C'est un cliché.
C'est phénoménal. Mais parce que pourquoi ? On en revient à mon histoire, pardonnez-moi de radoter, mais parce que c'est le monde des vainqueurs de la mondialisation et qui se croient loin de Dieu parce qu'ils ont réussi. Mais on les voit, les Aurore Berger, les Aurélien Taché, tous ces gens tête à claque. C'est ça, ils se croient, c'est la nouvelle aristocratie. Leurs ancêtres n'ont pas été aux croisades, mais ont été dans des start-up. C'est ça, là, le monde macronien. Et en plus... Ils échouent surtout. C'est ça qui est fabuleux. C'est qu'il faut quand même voir que Macron, sur l'Europe, s'est pris une claque de l'Allemande, AKK, là je suis incapable de prononcer son nom, donc elle me pardonnera, la nouvelle présidente de la CDU, comme jamais un président français n'avait pris une claque par un dirigeant allemand.
Donc Éric poursuit le festival de la nuance,
oui.
N'est-ce pas?
Ah non, mais attendez, c'est pas moi qui ai fait dans la nuance, c'est pas elle.
Ça c'est sûr.
Excusez-moi, elle n'a pas fait dans la nuance.
Excusez-moi, je finis.
Non, j'en ai pour une seconde. C'est simplement pour dire aux gens que tout ce qu'avait proposé Emmanuel Macron dans sa tribune a été rejeté avec pertes et fracas par la dirigeante de la CDU et elle a en plus, elle s'est permis cette provocation de dire, eh ben on veut bien le siège permanent de la France à l'ONU. Parce que ici, quand on a dit ça, on passait pour une fake news professionnelle.
Alain Duhamel avec l'air de la synthèse que je vous connais. Juste, je vous annonce ma dernière question parce que je vous demandais de conclure là-dessus. Mais bon, on vient d'expliquer que le Brexit était une forme de catastrophe britannique. Ensuite, que la campagne française était plutôt lamentable. Et on vote le 26 mai. Donc comment sortent les élections européennes et l'avenir de l'Europe de cette phase très difficile qu'on est tous en train de traverser? Et je vous demande d'aller très 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 loin dans la synthèse.
Bon, alors d'abord, est-ce qu'il y aura une participation? Est-ce que les Français, voyant ce qui se passe avec le Brexit, se diront c'est peut-être quand même assez important ce qui existe en ce moment? Est-ce que les jeunes qui défilent aujourd'hui pour l'écologie et qui d'ordinaire ne votent pas aux élections européennes iront cette fois voter?
Mais personne ne vote. La moitié des gens iront voter.
Moi, je connais des gamins de 18 ans qui vont aller voter.
Est-ce que le mouvement populiste qui existe en Europe et qui est puissant incontestablement mérite aussi, c'est un problème de dimension européenne, est-ce qu'il mérite un débat ou pas un débat? Donc il peut y avoir une participation. Pour le reste, Éric a fait, avec sa finesse habituelle, une présentation de ce qu'est le macronisme. Je veux dire, ça n'est même plus de la bande dessinée, ça.
C'est la
caricature. Oui. Non, mais bien sûr qu'ils ont des défauts, évidemment.
Ah non, ils ont pas de
mais
des
ils
défauts.
Ont tous des défauts. Mais non, l'idée de faire, de dire ils n'ont rien réussi, pratiquement ils tentent rien.
Sur l'Europe, Alain.
La lettre que la tribune que Emmanuel Macron a publiée dans l'ensemble de l'Europe.
Oui.
Alors c'est vrai que la nouvelle chef de file renvoyé dans ses cordes.
D'accord, c'est tout ce que je dis.
Mais non, mais moi, je suis bonne foi, donc
je
peux
le dire. Moi aussi.
Ça, je le dirai pas. en revanche, l'accueil global a été... On a dit partout en Europe... Il y a un chef d'État en Europe qui fait des propositions. Il n'y en a pas deux. Bon, bah c'est le nôtre. On ne va pas pleurer quand même.
Il fait des propositions, mais aucune sera reçue.
On verra.
C'est vachement intéressant.
Ça nous avons avant les élections.
Terriblement débordé. Là, vous voyez, vous nous rendez quand même les élections européennes intéressantes. Merci à l'un et à l'autre. Je rappelle dimanche l'invité du grand jury RTL, Le Figaro, LCI, en l'occurrence Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités. Dans un instant, on fait notre météo à 7 jours avec Louis Baudin. Respiration.